Vous pensez que nos vies vont déjà trop vite? Eh bien, accrochez-vous parce qu'on va passer en mode turbo. La 5G commencera à être déployée à la fin de l'année en France. Cinquième génération de réseau mobile qui nous promet voitures, aéroports ou même frigos connectés, mais aussi des opérations chirurgicales à distance et des communications instantanées. Tout cela grâce à l'ultra haut débit. Une révolution technologique qui inquiète. Quid de l'hyperconsommation énergétique qu'on y associe? À l'heure où l'on prône pourtant la sobriété. Et bien sûr, quel impact sur notre santé? Olivier Merkel vous répond aujourd'hui, le chef de l'unité d'évaluation des risques de l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, et notre invité, standard déjà ouvert, 01 45 24 7000, appli France Inter et hashtag la taxe sur les réseaux sociaux. François Saltiel, bonjour.
Bonjour Camille.
Avec nous toute la semaine pour passer au vert. François, aujourd'hui, un portrait, c'est ça?
Oui, un portrait d'une jeune youtubeuse allemande de 19 ans qui s'appelle Naomi Sept, mais que l'on peut surnommer l'anti-Greta Thunberg.
À tout à l'heure. Notre petit cœur va fondre pour le deuxième épisode du feuilleton de la semaine en Australie de Guy Vanctil. Reportage avec les koalas et bébés wallabies tout mignons, sauvés des flammes et ceux qui en prennent soin. Dans vos solutions pour la planète, les chutes de tissus, de bois, de verre ou même de carrelage récupérés et revalorisés du côté d'Auxerre. Et puis, amis des sauterelles, des mouches, des cafards ou des guêpes, vous allez adorer notre invité découverte, François Lasserre, qui lance un appel à sauver les insectes des individus comme vous et moi. Valérie Ayastayaraï réalise cette émission avec à la technique Loïc Frapsos et Maxime Ingrand.
Camille Cronier. La Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour Olivier Merkel.
Bonjour.
Vous êtes donc responsable de l'évaluation des risques liés aux nouvelles technologies à l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail, j'ai dit la totale. Alors, totale. Avant de voir si oui ou non la 5G est un risque, il faudra d'ailleurs me répondre clairement s'il vous plaît. Olivier Merkel, est-ce qu'on peut déjà expliquer simplement ce que c'est que cette cinquième génération donc de réseaux mobiles dont le déploiement commencera à la fin de l'année? Parce que ça peut vraiment paraître très obscur et technique. Moi, la première, je me disais, qu'est-ce que c'est que cette chose un petit peu virtuelle, alors que c'est quelque chose de très concret?
Alors en fait, la 5G, les promesses de la 5G qui sont annoncées par ses promoteurs, hein, les industriels qui cherchent à la mettre en place, elles sont de trois types. Il y a d'abord le très haut débit. C'est finalement essayer de fournir la capacité, par exemple, de télécharger des fichiers, des films, des vidéos de manière extrêmement rapide, encore beaucoup secondes, plus rapide qu'aujourd'hui, en quelques secondes, effectivement, un film entier. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle des temps de latence, c'est-à-dire un temps de communication extrêmement faible, avec du coup des applications potentielle dans le domaine de la médecine, par exemple. Si on imagine un chirurgien qui est à un millier de kilomètres d'un patient et qu'on cherche à opérer par un robot, on conçoit qu'il faut effectivement des temps de réaction extrêmement faible entre l'action du chirurgien et puis ce qui se passe à l'autre bout.
Ce qu'on peut appeler le petit décalage.
C'est ça, le petit décalage entre l'action et puis ce que va effectuer effectivement le robot de l'autre
robot
côté.
Voilà.
C'est le cas également pour la voiture autonome. On imagine bien que pour faire fonctionner des voitures toutes seules dans la circulation, il faut des temps de réaction extrêmement rapides, donc des temps de communication également extrêmement rapides. Et puis le troisième volet annoncé par la 5G, c'est la capacité d'interconnecter finalement des milliers d'objets en même temps dans un espace relativement restreint. Donc par exemple, dans une ville, on va imaginer tout un tas d'objets, des téléphones, mais aussi des capteurs dans l'environnement, les voitures, la circulation, les feux, etc. Tout ça, donc, va pouvoir interagir en même temps, ensemble, de manière, complètement interconnectée.
Ça s'appelle l'Internet des objets connectés, d'ailleurs.
C'est ça.
Alors, cette 5G, on le précise, elle est déjà déployée en Corée du Sud. C'était le premier pays, l'année dernière. C'est le cas également en Espagne, plus près de nous, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie et en Suisse. En France, elle aura supplanté la 4G dans les 5 années, là, en 2025, c'est ça?
Alors c'est ce qui est prévu, hein, sont les plans de déploiement effectivement de cette nouvelle technologie. Alors quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers déploiements de la 5G actuellement dans les pays étrangers, donc c'est le cas notamment en Suisse et dans les premiers Européens qui ont commencé ce déploiement. En réalité, c'est pas tout à fait de la vraie 5G, c'est de la 4G améliorée, on va dire. Mm-hmm. Alors qu'en France, effectivement, le choix qui a été fait notamment par les industriels, c'est de partir sur un développement déjà de vraie 5G. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu de retard et donc c'est annoncé effectivement à la fin de l'année.
Alors Olivier Merkel, pour qu'elle fonctionne cette 5G, on va installer évidemment de nouvelles antennes, utiliser deux nouvelles fréquences, donc de 3,5 GHz et de 26 GHz. Ça s'appelle les ondes millimétriques. Vous avez vu, j'ai potassé mon dossier. Des ondes millimétriques qui, visiblement, par contre, n'aiment pas les murs, n'aiment pas la pluie, etc. Donc, il va falloir en mettre partout, des antennes, c'est ça?
Alors, effectivement, pour bien comprendre, donc les communications mobiles fonctionnent avec des ondes, évidemment, comme la radio également. Et donc, ces ondes, elles ont des propriétés physiques. Elles ne se propagent pas de la même manière en fonction de leur fréquence. Typiquement, les grandes ondes de la radio, ça se propage très 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 loin, alors que les ondes plus courtes, notamment de la téléphonie mobile, se propagent beaucoup moins loin. Et la 5G donc va à la fois réutiliser des fréquences déjà utilisées par la 2G, la 3G, la 4G, mais effectivement introduire deux nouvelles bandes de fréquences, c'est ça qui est intéressant, important. La première, c'est la bande effectivement autour de 3,5 GHz, qui est une bande finalement qui est très proche de ce qu'on connaît aujourd'hui. Les téléphones mobiles aujourd'hui en 4G fonctionnent jusqu'à 2,6 GHz. Le Wi-Fi, c'est 2,5, c'est 5 GHz.
Donc c'est légèrement au-dessus,
c'est légèrement au-dessus.
On est 26 GHz.
Voilà, alors 26 GHz, ça, ce sont les futurs déploiements, on pense a priori d'ici 5 ans, sachant qu'il y a déjà des expérimentations qui vont être mises en place prochainement. Et donc 26 GHz, c'est effectivement donc une fréquence un peu plus élevée, mais avec du coup des propriétés différentes. En fait, pourquoi 26 GHz? Parce que ça va permettre de mettre plus de communication dedans. Le principe, c'est que plus on monte en fréquence, et plus on va pouvoir mettre de l'information dans le support du signal.
Avec toujours cette idée d'aller plus vite, etc.
C'est ça. En contrepartie, ce sont des fréquences qui se propagent moins bien, moins loin. Et donc, du coup, ça va nécessiter effectivement plus d'antennes. Et ça sera essentiellement pour des communications qui seront essentiellement visibles. C'est-à-dire qu'on va être soit en intérieur, soit en extérieur, mais avec une antenne qui sera en visibilité d'un capteur, d'une voiture, d'un téléphone mobile, etc.
Oui, il y en aura partout autour de nous.
Et du coup, il faudra effectivement énormément d'antennes partout.
Alors, est-ce que ça va être dangereux pour la santé, ces champs électromagnétiques qui vont donc nous entourer 24 heures sur 24 et vraiment partout?
Alors, c'est donc la question qui nous est posée. C'est la question qui nous est posée effectivement à l'ANSES et donc à laquelle on va essayer de répondre.
Là, vous n'êtes pas encore capable d'y répondre aujourd'hui alors que c'est déployé dans quelques mois.
Alors, on est toujours très prudent face à ces questions-là. Comme ce qu'il faut dire, c'est que ça fait 15 ans pratiquement qu'on travaille sur ces questions-là, qu'on fait donc des expertises, c'est-à-dire qui consistent à récupérer l'ensemble des publications scientifiques disponibles sur la question. Donc ça fait 15 ans qu'on analyse toutes ces publications, qu'on met à jour nos expertises. Et aujourd'hui, je crois que ce qui est important quand même de souligner, c'est qu'on n'a pas de preuve d'un effet des ondes radiofréquences, donc de ce type d'ondes sur la santé. Néanmoins, effectivement, on le voit là, il y a des nouvelles fréquences qui arrivent. Donc il faut rester effectivement vigilant, il faut se poser la question et savoir quelles vont être les conséquences de ces nouvelles fréquences.
Alors,
sur la santé.
Permettez-moi de vous le dire, vous faites un petit peu de langue de bois, puisque l'ANSES a sorti un rapport préliminaire le 27 janvier dernier, dans lequel vous écrivez, je vais citer, « Il y a un manque important, voire une absence de données scientifiques sur les effets biologiques et sanitaires. » Donc ça veut quand même dire que vous ne pouvez pas évaluer à ce stade, en tout cas, les risques. C'est ça que ça veut dire, non?
Alors, on a fait effectivement une recherche bibliographique pour savoir si on a des données spécifiquement sur ces bandes 3,5 et 26 GHz.
Et vous n'en avez pas?
Deux réponses un petit peu distinctes. Dans la bande 3,5 GHz, spécifiquement, effectivement, on n'a pas beaucoup de données. C'est sûr, mais c'est normal puisqu'il y avait très peu aujourd'hui d'applications dans cette bande-là. Du coup, ce qu'on a dit et ce qu'on va faire là dans l'année qui vient, c'est qu'on va se poser la question et y répondre, qui est de savoir si on peut ou non, d'une certaine manière, extrapoler ou transposer, si vous voulez, les résultats qu'on a déjà obtenus à d'autres fréquences très proches. Le Wi-Fi, par exemple, 2,5 GHz, c'est très proche en matière de comportement par rapport au corps, des ondes par rapport au corps. On est sur des choses très proches. Donc voilà, on va juste dire si oui ou non, on peut adapter nos résultats déjà obtenus pour le Wi-Fi, pour la téléphonie mobile 2G, 3G, 4G, à la 5G, dans cette bande-là. Et puis alors, deuxième situation, à 26 GHz. Là, on a des données. On a des données parce que ce sont des fréquences qui sont déjà utilisées pour des radars. Et donc ça, laissez-nous le temps de travailler.
arrive la 5G. Vous comprenez que les gens se posent la question maintenant, c'est pas dans 3 ans, c'est dans 6 mois.
Bien sûr, mais il faut nous laisser le temps de travailler. Et donc on va du coup en 2021, début 2021, rendre
donc une fois
un
que
avis,
le déploiement aura commencé,
rendre un avis sur effectivement la dangerosité de ces ondes millimétriques. Quand même, ce que je voudrais souligner, c'est que effectivement, il y a ce déploiement qui est prévu fin 2020. Quand même, il faut dire que les objectifs européens, notamment en matière de déploiement, c'est une grande ville connectée, hein, je crois, fin 2020. Là, on annonce une ou deux villes connectées. Voilà, on n'est pas sur un déploiement massif et total à la fin 2020. Donc nous, on va arriver avec effectivement notre expertise début 2021. Le déploiement de la 5G aura à peine commencé.
Je vous pose cette question parce que vous savez qu'il y a quatre recours qui ont été déposés par deux associations au Conseil d'État ces derniers jours pour demander un moratoire sur le déploiement de la 5G. Donc une pause en attendant justement qu'on ait pu évaluer les risques, etc. Il y a des pétitions, il y a également des scientifiques qui ont lancé un appel pour dire attention, il y a un risque, je les cite, pour le vivant en général. Qu'est-ce que vous répondez à ces opposants qui disent en fait c'est le monde à l'envers, c'est-à-dire que d'abord on déploie, hein, les opérateurs avaient jusqu'à hier pour ils ont tous posé leur candidature, d'abord on déploie et ensuite on évalue.
Écoutez, sur le principe, mais évidemment, je partage complètement cette interrogation. C'est-à-dire que, d'une manière générale, c'est vrai qu'on se dit, à partir du moment où on déploie une nouvelle technologie, à partir du moment où on met sur le marché une nouvelle substance chimique, bien sûr qu'il faudrait l'évaluer. Après, ce sont des choix de société. C'est-à-dire qu'on voit bien que, par exemple, dans le domaine des médicaments, on a pris le parti d'évaluer de manière extrêmement forte la dangerosité des molécules qu'on met sur le marché. Voilà, dans le domaine des nouvelles technologies, etc., c'est le cas pour les nanomatériaux, c'est le cas pour les technologies mobiles. Bah, c'est une sorte de choix de société. On décide effectivement de mettre, de déployer ces technologies et effectivement, on se préoccupe souvent, après coup, de l'effet potentiel.
Alors, vous parlez de choix de société, justement, c'est pas votre rôle directement puisque vous êtes à l'ANSES, mais je vous pose également la question par rapport au volet environnement. Toute cette technologie, donc ça nécessite de nouveaux équipements, hein, de fabriquer des antennes, des nouveaux téléphones, des data centers pour stocker les données. Donc ça veut dire fabriquer, donc faire des produire, émettre des gaz à effet de serre. Ensuite, ça va beaucoup consommer. Alors l'ARCEP, le régulateur des télécoms, assure que tout est optimisé pour la consommation énergétique. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec le président de l'ARCEP. Dans tous les cas, est-ce que c'est pas à l'opposé, quelque part, de la sobriété énergétique qui est même inscrite dans la loi ?
En tout cas, je trouve que ça devrait être effectivement un aspect pris en compte, cette sobriété énergétique dans le déploiement de la 5G. Et puis pour relier quand même sur le discours de l'ANSES, ce qu'on dit quand même depuis de nombreuses années, c'est d'essayer de limiter l'exposition aux ondes électromagnétiques.
Et là, donc, c'est complètement le contraire.
En limitant l'exposition aux ondes électromagnétiques, on devrait également limiter finalement la quantité d'énergie nécessaire pour que ça fonctionne. Et puis, les préoccupations environnementales, on les partage complètement. On a travaillé notamment sur les effets du changement climatique sur la santé. On est parfaitement conscient de ces effets-là sur la santé. Donc, je dirais que cette sobriété générale, elle participe aussi d'une action positive pour la santé.
Olivier Merkel, sur la 5G, donc, sujet qui interroge et inquiète beaucoup aujourd'hui dans la Terre au Carré. Appelez-nous, chers auditeurs, 01 45 24 7000. Message sur l'application France Inter et avec le mot-clé l'attaque.
France Inter. La Terre au Carré.
Et François Saltiel, donc avec nous toute la semaine pour passer au vert. Et aujourd'hui, vous nous présentez cette jeune youtubeuse, Naomi Zeibt, je crois qu'on prononce comme ça.
On peut le dire
comme
ça, effectivement.
Alors, elle serait l'anti-Greta Thunberg.
Oui, Camille, Naomi Zeibt a 19 ans, elle est européenne, allemande précisément, maîtrise les réseaux sociaux comme l'art de la parole, et sait avec un certain charisme séduire les foules. Voilà ce qu'elle partage avec la suédoise Greta Thunberg. Pour le reste, tous les opposent. La jeune femme s'est fait connaître pour ses vidéos YouTube où elle dénonce les politiques d'immigration allemande qu'elle juge trop libérale, le féminisme culpabilisateur et aussi l'alarmisme climatique. Mais le mieux pour bien la découvrir, c'est encore de l'écouter.
J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le monde ne va pas s'effondrer à cause du changement climatique. On nous fait avaler des discours alarmistes sur le climat qui nous disent que les humains sont en train de détruire la planète et que les jeunes notamment n'ont pas d'avenir, que les animaux meurent et qu'on ravage la nature. Nous avons envie de dire la vérité à propos des sciences du réalisme climatique à l'opposé de l'alarmisme climatique.
Alors le message est limpide, hein, elle caricature les propos de Greta Thunberg, mais lorsqu'on la questionne justement sur cette étiquette d'anti-Greta, voilà ce qu'elle répond.
La raison pour laquelle je n'aime pas cette appellation d'anti-Greta, c'est que ça voudrait dire que je suis juste une marionnette endoctrinée.
Alors on se demande quand même dans cette affaire, Camille, qui tire les ficelles de Naomi ?
Alors justement, oui François, comment ça se fait qu'on entende parler d'elle uniquement maintenant ?
Oui, alors pour répondre à ces questions, il faut aller chercher cette soudaine exposition du côté d'un think tank américain qui s'appelle Earthland Institute et qui a décidé de faire de Naomi leur nouvelle égérie conservatrice en l'embauchant. En l'embauchant, oui, ils lui donnent des salaires tous les mois pour faire des vidéos pour leur compte. Cette organisation est financée par des donateurs anonymes, mais aussi par des compagnies pétrolières. Elle travaille en étroite collaboration avec William Happer, un ancien du Conseil de sécurité nationale de l'administration Trump. Cet universitaire physicien soutient que les émissions de carbone peuvent être bénéfiques pour la santé. L'organisation américaine Earthland se dit donc qu'en recrutant une Européenne au visage très juvénile, hein, c'est vrai qu'il est très juvénile pour 19 ans et en longs cheveux blonds, comme Naomi, eh bien, elle sera peut-être en mesure de brouiller l'image et le message d'alerte porté par Greta. Et la jeune Allemande devrait d'ailleurs faire ses débuts américains très prochainement en s'exprimant à Washington lors du grand rassemblement annuel des conservateurs qui démarre cet après-midi, Camille. Donc, on devrait vite avoir de ses nouvelles. Quant à la stratégie de mise en orbite de Naomi, elle repose sur une tactique, celle de créer une fausse équivalence entre un message reposant sur la science du climat, celui de Greta, et un message basé sur le climato-sceptisme. Et même si pour l'instant il n'y a aucune comparaison sur la portée de leurs paroles respectives et leur résonance, notamment sur les réseaux sociaux, où Greta Thunberg est quand même suivie par 4 millions de personnes. Et Naomi en est encore très loin. Mais puisqu'on parle des réseaux sociaux, le Guardian nous fait part d'une nouvelle étude menée par l'université de Brown aux États-Unis qui révèle qu'un quart des tweets sur le climat proviennent de robots et non d'humains, et qu'ils ont tendance à nier la dérégulation climatique. On peut donc parler d'une vaste entreprise de manipulation des foules que Twitter peine à endiguer. Alors vous le voyez, entre l'essor des robots de Twitter et des nouvelles figures préfabriquées pour contrer la vérité scientifique, nous nageons bien en pleine dérégulation médiatique.
François Saltiel qui passe au vert, et c'est évidemment à réécouter sur franceinter.fr. Et aujourd'hui, on parle de 5G dans la Terre au carré. Elle arrive en fin d'année en France, avec plein de questions. Somewhere between drunkenness and chivalry, I hold the door open and let her pass through. She says thanks to me in a British accent, and I trade answer her in the same voice. She laughs at me, says, what was that supposed to be? I say, I'm sorry, I'm from a different part of the country. She says, come on, baby, try again. Come on, baby, try again. Drunkenness and jealousy, I watch her talking to some old friend. What a reunion, he recognized her across the room. How many years could there be to catch up on? And somewhere between drunkenness and honesty, I make a silent toast to the things that I do and don't miss. Come on, baby, try again. 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 Andy Schauf, c'était Try Again, essaye encore.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Camille Cronier sur France Inter.
Et nous, on essaye aujourd'hui de comprendre tous les enjeux autour du déploiement de la 5G à partir de la fin de l'année en France et jusqu'en 2025, et de répondre aux inquiétudes très nombreuses avec vous, Olivier Merkel, responsable de l'évaluation des risques liés aux nouvelles technologies à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. On va tout de suite au standard retrouver Ludovic. Bonjour Ludovic.
Oui, bonjour.
Vous êtes électrosensible, vous, c'est ça ?
Alors, voilà, je suis électrosensible hein, depuis 2 ans et demi à peu près. Moi, je trouve les propos de Monsieur Merkel totalement scandaleux. Je pense que le déploiement de la 5G, c'est une folie. Alors, c'est, comme ça a été dit, c'est une technologie électromagnétique non filaire. Mais c'est une folie, pourquoi ? Je pense que je voudrais avancer 2 raisons. D'abord, les experts nous disent que la 5G, si vous voulez, ce n'est plus simplement quelques milliards d'êtres humains qui communiquent d'un bout à l'autre de la planète, ça sera en plus, à terme, 500 milliards d'objets connectés. Ça veut dire des rayons électromagnétiques qui vont s'ajouter à ceux déjà existants. Donc on peut évidemment craindre des effets de saturation sur les organismes des êtres vivants hein, et sur les êtres humains par ailleurs. Petite parenthèse, l'ANSES, je crois, reconnaît qu'il y a quand même dans la population déjà 5% d'électrosensibles. Donc ça veut dire qu'à terme, ça fera 10, 20, ou on ne sait pas où ça va s'arrêter. Une autre raison pour laquelle le déploiement de la 5G me paraît être une folie, c'est que les fréquences utilisées iront jusqu'à 3500 MHz. Il faut savoir que les personnes électrosensibles réagissent déjà à des fréquences de rayonnement électromagnétique qui correspondent à celles de la première génération, de la deuxième génération.
Alors Ludovic, on va laisser Olivier Merkel. Ludovic, on va laisser Olivier Merkel vous répondre parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui posent des questions derrière vous. Olivier Merkel, vos propos scandaleux. Comment vous répondez à Ludovic ?
Alors écoute, c'est sûr que l'électro-hypersensibilité est un sujet extrêmement complexe. On a passé plus de 4 ans à examiner cette question, vraiment précisément. On avait fait le choix d'ailleurs, lors de nos expertises, d'y consacrer vraiment un rapport dédié. Mm-hmm. Et ce qu'il faut savoir avec l'électro-hypersensibilité, c'est que, effectivement, on reconnaît complètement la réalité des symptômes hein, qui sont vécus, qui sont perçus, avec les souffrances aussi qui sont vécues par les personnes électro-hypersensibles. Et pourtant, on a vraiment fait le tour de toutes les hypothèses scientifiques qui pourraient tenter d'expliquer en fait les symptômes perçus par ces personnes. Et aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en fait, on n'est pas en capacité, en tout cas la science telle que avec les données dont on dispose aujourd'hui, n'est pas en capacité de dire qu'il y a un lien avéré entre l'exposition aux ondes et les symptômes qui sont observés.
Par rapport aux ondes, il y a cette excuse qui d'ailleurs est même donnée par le gouvernement, qui explique que le signal ciblera pour la 5G l'utilisateur, et donc s'il n'y aura pas de bassin d'ondes, sauf que vu notamment la densité en ville, ça reviendra complètement au même finalement, non ?
Alors, avec la 5G, effectivement, il y a des nouvelles modalités d'exposition qui vont apparaître, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la 2G, la 3G, la 4G, on est dans une forme, effectivement, en quelque sorte de stabilité, si vous voulez, des expositions dans l'environnement. Alors que la 5G, avec ses antennes qu'on appelle actives, va permettre de cibler un utilisateur et donc, du coup, de l'exposer, effectivement, hein, en contrepartie, de l'exposer de manière beaucoup plus élevée. Par contre, toute la question qu'on se pose, et on est en train justement d'établir des scénarios, c'est cette personne-là ou les personnes qui l'entourent, hein, parce que ce sont des faisceaux qui ne sont pas très très fins, hein, donc ces personnes-là seront exposées beaucoup plus, effectivement, le temps d'un téléchargement de film, par exemple, mais du coup, comme il y aura plus de débit, ça va durer moins longtemps. Donc, on se pose la question, quelles vont être, voilà, du coup, les conséquences? Est-ce que c'est l'augmentation de puissance qui va gagner, finalement, et faire augmenter le niveau global d'exposition, ou est-ce que c'est le temps de téléchargement réduit qui va permettre de réduire l'exposition?
François, une question avant de retourner au standard?
Oui, de Lucie sur Facebook, qui est également, elle aussi, électro-hypersensible, et qui dit d'ailleurs que ses symptômes se sont aggravés avec la 4G et le Wi-Fi. Elle se sent même un peu méprisée et moquée par l'ANSES, qui vous le disait, hein, connaît les symptômes et n'établit pas de corrélation avec les champs électromagnétiques. Donc, comment pouvez-vous lui garantir à Lucie et à ceux et celles qui souffrent des mêmes symptômes, eh bien, un avenir sans complications?
Olivier Merkel.
Alors, les recommandations hein, de l'agence sur l'électro-hypersensibilité, c'était justement d'améliorer la prise en charge. Je crois que, en fait, à la limite, la question de la cause et de savoir si oui ou non ce sont les ondes ou pas qui sont la cause de l'électro-hypersensibilité, moi je pense qu'il faut maintenant dépasser ça et finalement rentrer vraiment dans la prise en charge. C'est ce qui va être fait. Le ministère de la Santé d'ailleurs a chargé la Société française de médecine du travail d'établir une sorte de guide de bonne pratique à l'égard des médecins pour qu'ils puissent prendre en charge les personnes électro-hypersensibles, les soigner si c'est possible, améliorer leur quotidien, améliorer leur façon de vivre finalement. C'est ça qui est important.
Nous sommes avec Pierre au standard. Bonjour Pierre, bienvenue sur France Inter.
Oui, bonjour.
On écoute votre question.
Donc, je me suis permis d'appeler pour contrecarrer, puisque donc on est dans la tête au carré, ce sera très bien.
La terre.
Les propos de votre invité. Donc je l'entendais au téléphone dire que, enfin moi, puisque je suis sur le téléphone là, donc je l'entendais dire que ce n'est pas avéré que ce soit les ondes qui soient responsables de l'électro-hypersensibilité. Donc fort bien, mais pour les animaux, est-ce que le psychique va entrer en jeu ? Je connais énormément de fermiers donc qui élèvent soit des vaches, des brebis, des lapins, et qui ont perdu, prenons le cas d'un fermier, monsieur Le Béchec, qui est dans les Côtes d'Armor, il a perdu 200 vaches en 3 ans, pardon. L'éleveur de lapins, qui était le deuxième éleveur de lapins, si je me souviens bien, donc dans la Sarthe, lui a tout perdu. Et il y avait donc dans la nurserie des lapins 2 volts par mètre, et dans la partie engraissage, il y avait du 4 volts par mètre. Donc c'était une antenne relais qui impactait son installation.
Alors Pierre, votre question, il y a beaucoup de monde derrière vous.
Simplement dire à votre invité, comment peut-il dire que l'électrosensibilité, on ne sait pas exactement d'où elle vient. Et puis lorsque j'ai entendu parler de fête de société, ce n'est pas un fait de société d'admettre la 5G. Ce n'est un fait de société que si c'est une technologie sans danger. Et lorsqu'il parlait de téléchargement très rapide qui ferait que ça impacterait moins, c'est faux, puisqu'on va vendre des bandes à des entreprises qui, elles, vont les exploiter, et donc, évidemment, ça va émettre sans arrêt.
Alors, Pierre, on laisse Olivier Merkel vous répondre.
Oui, rapidement sur la question des animaux, là aussi je vais revenir sur un travail qu'on a réalisé, un travail d'importance avec des experts, beaucoup d'experts. On a travaillé pendant plusieurs années sur cette question-là, et en 2015 on a rendu un avis effectivement. Aujourd'hui la science n'est pas en capacité de dire qu'effectivement il y a un lien entre les observations effectivement de certains agriculteurs et l'exposition de ces animaux aux ondes. Par ailleurs, sur la 5G, c'est ce qu'on va regarder, c'est-à-dire que on va être très attentif au scénario d'exposition.
Mais pardon, dites on va, mais les gens ils veulent pas que vous le fassiez dans le futur, ils veulent que vous le fassiez maintenant.
Mais attendez, c'est ce que je vous dis, on le fait là, c'est-à-dire qu'on vient de nommer un groupe de travail là d'experts justement pour travailler sur ces questions-là. Je vous l'ai dit qu'il va rendre son avis début 2021. Il nous faut un minimum de temps quand même pour travailler, donc on va pendant cette année justement construire ces scénarios, essayer de comprendre comment, à quoi on va être exposé et quel sera l'impact de la 5G sur nos vies en matière d'exposition au champ.
François.
Oui, depuis le début de cette émission, vous avez dit plusieurs fois, c'est un choix de société. Mais Claudine nous dit, mais nous on n'a pas été consultés justement dans ce choix de société. Est-ce que c'est vraiment un choix de société sans consulter la population ?
C'est ce que disait Pierre d'ailleurs aussi et beaucoup d'autres, Olivier Merkel.
Écoutez, la mise en place, l'ANSES c'est une agence d'évaluation. On est là pour évaluer les risques. On nous commande finalement des évaluations de risque. On vient là après un choix qui a été porté par le gouvernement, qui est celui de développer la 5G. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un choix de société, dans le sens où le gouvernement élu démocratiquement choisit de mettre en place la 5G. Nous, l'ANSES, on est là derrière pour évaluer donc les risques, anticiper le plus possible. Et je crois quand même que ce qu'il faut souligner, c'est que c'est une des premières fois qu'on est en capacité justement d'évaluer ces risques avant même que ce soit complètement déployé. Je citerai juste un exemple. On a travaillé sur les LED, les lampes à LED, en 2010, à l'époque où vraiment elles commençaient à peine à être disponibles sur le marché. On a pu comme ça du coup faire modifier certaines caractéristiques des lampes, on a pu influer sur le marché, ça a eu des bons résultats. On a refait une expertise 10 ans après et on se rend compte que les données sont bien meilleures aujourd'hui.
Olivier Merkel, très rapidement, il y a aussi des questionnements sur d'éventuelles lésions cutanées que pourrait provoquer l'utilisation de la 5G. Est-ce que c'est avéré ça ? Est-ce que c'est un risque potentiel ? c'est probable.
Alors là encore, c'est une des questions qu'on va se poser, qu'on va regarder dans, au cours de cette année. Non mais, on a rendu un rapport préliminaire.
Trop de questions sans réponse.
Et donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'avec la fréquence de 26 GHz, l'interaction avec le corps humain va se limiter à la peau, et vraiment aux couches superficielles de la peau. Et donc effectivement, les lésions cutanées font partie des effets potentiels qu'il faut regarder.
Merci d'avoir été avec nous, Olivier Merkel, responsable de l'unité d'évaluation liée aux nouvelles technologies à l'ANSES. Rendez-vous donc en 2021 pour le rapport définitif, une fois que le déploiement aura commencé. Juste après les infos, épisode 2 du feuilleton de Guy Vanctil en Australie, reportage avec les animaux sauvés des flammes. Il a craqué, je vous préviens, devant un bébé wallaby. France Inter, 14h.
France Inter, la Terre au carré.
Avec mon coéquipier de la semaine, François Saltiel. François, on sera dans un instant à Auxerre, où Céline nous parlera de sa solution pour la planète. Revaloriser les chutes de tissus, de bois ou de carrelage des industries. Et puis, je ne sais pas si vous aimez les insectes.
Vous voulez dire les moustiques qui nous empêchent de dormir ou les araignées qui
voilà,
font peur?
Voilà, par exemple, des individus qu'il faut arrêter d'éliminer, s'il vous plaît. Ils ont une âme. François Lasserre, c'est très sérieux, écrit « Sauvons les insectes » et il nous expliquera comment. Mais d'abord, l'Australie. Bonjour Guy Vanctil.
Bonjour Camille, bonjour à toutes et à tous.
Pour ce deuxième épisode de votre feuilleton sur les incendies qui ont réduit à néant plus de 100 000 km² depuis le mois de septembre, on le rappelle, vous nous emmenez toujours en Nouvelle-Galles du Sud pour parler de la faune aujourd'hui.
Oui, la faune et les flammes. Vous aviez déjà évoqué dans cette émission l'estimation de 1 milliard d'animaux victimes de ces feux. Mais Chris Dickman, le chercheur à l'Université de Sydney qui est à l'origine de ce chiffre, insiste lui sur les centaines d'espèces déjà menacées qui vont sans doute disparaître. Car avec les incendies, c'est tout un environnement qui est parti en fumée, à tel point que des volontaires comme Morgan, qui recueille les koalas au parc des Blue Mountains, ont le plus grand mal à trouver des feuilles d'eucalyptus pour les nourrir. Mais je vous propose pour commencer d'aller plus à l'ouest, à Bathurst, avec Christy, que vous aviez vu, Camille, au téléphone ici
oui.
Même. Vous m'avez donné son 06 et je suis allé la retrouver là-bas, avec son bébé wallaby en bandoulière.
Here we go.
Devastating wildfires in Australia.
Ce serait 1 milliard d'animaux qui auraient péri dans les flammes.
A billion animals killed by the bushfires.
Une hécatombe pour l'écosystème de l'île continent.
So my name is Christy Jarrett. I'm a wildlife care.
Je m'appelle Christy Jarrett et je m'occupe du recueil des animaux pour l'organisation Wires.
Cette volontaire d'un groupe de protection animalier fait tout son possible pour secourir des espèces sauvages. Ici, 4 animaux sur 5 n'existent nulle part ailleurs sur la planète. Comme le wallaby.
Un petit bébé wallaby de 1 kg. Et je vous avoue que c'est quand même absolument craquant, cette petite bête avec ses petites oreilles et ses yeux très expressifs et qui regarde vers moi en tirant la langue.
Her name is Hope, yes.
Et là, elle est dans une espèce de sac, c'est comme une poche en fait.
Exactly right. So we pouch them, they stay in a pouch. It's like what their mums have. It's ouais. As good as we can do.
On fait le mieux qu'on peut pour essayer de reproduire la poche ventrale des marsupiaux et là, elle est à l'aise dans ce gros sac là, c'est vrai qu'elle cligne des yeux.
And these guys, the animals that are indicating to us what is happening.
Ces animaux qu'on voit là, ce sont les premiers affectés et c'est eux qui sont en train de nous indiquer ce qui nous attend.
Yeah, they can't live on a burnt planet.
On ne peut pas vivre sur une planète brûlée. Et voilà pourtant vers quoi se dirige l'Australie, la nouvelle normalité en Australie, un pays qui brûle. C'est ça, les Australiens sont touchés chez eux, sur leur terre, dans leur paysage. Et un petit cacatoès qui passe au-dessus de nous. C'est la première fois que des riches deviennent victimes des dérèglements causés par ce monde de riches.
And I think every wildlife carer has become a little bit of a political activist now.
Maintenant, nous autres défenseurs de la nature, on devient un peu tous des activistes politiques.
It's not really what I wanted to do.
C'est pas ce que je voulais faire.
But it needs to be done.
Mais il faut y aller.
I hope that it's the wake-up call that everybody needs.
J'espère que ce sera le réveil dont tout le monde a besoin.
1 milliard d'animaux morts depuis le début des incendies.
A billion animals have been killed by the bushfires.
Les chercheurs de l'université de
Professor Chris Dickman explains.
Yeah, my name is Chris Dickman. I'm a professor.
Je suis Chris Dickman. Je suis professeur d'écologie à l'université de Sydney.
Estime que plus d'un milliard d'entre eux auraient disparu.
Christopher Dickman, vous êtes celui qui avait le premier chiffré l'étendue des dégâts provoqués par ces incendies. Dans quelle mesure ce qui vous arrive en ce moment est hors de toute proportion?
It is the fires in the forest and woodlands this fire season are completely unprecedented.
Ça l'est parce que les feux de forêt qui ont eu cette année sont au-delà de tout ce qu'on a jamais connu.
They burnt a larger area. They burnt it quickly and more severely.
Les zones qui ont brûlé sont plus importantes et elles ont brûlé plus vite et de manière plus intense en laissant moins de zones préservées que jamais auparavant.
And 1 billion sounds a big number.
Ça vous paraît énorme comme chiffre de 1 milliard d'animaux morts par les flammes.
But in some ways, the more difficult thing to accept is that there will be extinctions of species.
Mais ce qui va être encore plus dur à accepter, c'est qu'il va y avoir des espèces qui vont disparaître.
So at the moment, the latest information is that 331.
L'estimation qu'on a aujourd'hui, c'est que près de 331 espèces menacées ont vu leur zone de survie et de peuplement touchée par les incendies.
And for species that have lost,
donc pour des espèces comme celle-ci qui ont vu la plupart de leur habitat disparaître à cause des incendies, les risques d'extinction sont très élevés. Donc ça veut dire que le bilan qu'on est en train de faire en ce moment, il va nécessairement s'aggraver dans les mois qui viennent.
Yes, that's right. Yeah. If we're looking for a word to call it, it's a disaster.
Donc si un mot à trouver pour décrire tout ce qui nous arrive, c'est un désastre.
Around 25,000 koalas are thought to have died in the bushfires.
On arrive chez Morgan.
My name's Morgan Philpott.
Je m'appelle Morgan Philpott. Je suis un volontaire pour WIRES, qui est l'organisation de protection de l'environnement. Donc j'ai trois koalas ici et je m'en occupe.
Mais le koala est maintenant une espèce en voie de disparition.
Ils vont pas aller très bien parce que là aujourd'hui il fait très très chaud, donc eux-mêmes souffrent de la chaleur. Alors on sort par la petite cour du jardin. Un petit enclos. On s'approche pour regarder. Ah oui. Accroché, complètement groggy là. Il nous regarde, il nous fixe. Un petit koala qui est là.
Yeah, no, she's very heat stressed, like any of us outside here.
Elle souffre de la chaleur comme nous tous ici, ouais, parce que là on est tous en nage ruisselant de sueur par ces 44 degrés.
But the difference is we're not wearing a big thick fur coat.
Mais nous, à la différence de ce koala, c'est vrai qu'on porte pas cette fourrure épaisse.
But certainly, these events have been absolutely catastrophic.
Mais c'est vrai que ces événements ont été catastrophiques pour la survie des koalas.
Which means they're threatened with extinction.
C'est-à-dire qu'il y a un vrai risque d'extinction.
And they have evolved to deal with fire.
Parce que ces animaux ont évolué pour résister aux incendies.
And their instinct when a fire comes.
Leur instinct, normalement, quand un incendie de bouche s'éclate, c'est de grimper au plus haut des arbres et de se rouler en boule.
So when we have a crowning fire,
parce que ce qui se passe là, c'est qu'on a des incendies de canopée, et quand c'est la partie haute de la forêt qui brûle,
they don't stand a chance.
Ces animaux n'ont plus aucune chance de survie.
And of course, when it comes to release, we are probably going to have to wait.
Et pour ce qui est de la relâcher dans la nature, ça devra attendre un sacré moment que la forêt commence à se refaire pour qu'elle puisse trouver de quoi manger. Et là, pendant que je dis ça, elle est en train de se gratter derrière l'oreille avec sa patte arrière, et elle se tourne un peu pour qu'on la laisse tranquille. En attendant ce jour, imaginez un peu, sachant que les koalas ne mangent qu'une douzaine des variétés d'eucalyptus parmi les plus de 800 variétés d'eucalyptus présentes et qu'ils ont besoin de 3 variétés différentes par jour. Voilà, ce qui fait que Morgan s'épuise à courir la campagne pour nourrir ses koalas.
Oh, ils sont tellement mignons, cela dit. Et demain, Give suite de votre reportage en Australie avec les aborigènes qui, contre ces énormes feux, pratiquent des feux traditionnels. Et puis, si vous aimez bien les animaux mignons, contrairement à Caroline Tourbe, vous nous avez mis des photos sur notre page Facebook oui. De la Terre au Carré. À demain.
À demain.
France Inter. La Terre au Carré. Vos solutions pour la planète.
Je charriais Caroline Tourbe qui a fait une petite chronique la semaine dernière sur les animaux mignons. François, on accueille Céline au téléphone. Bonjour Céline.
Bonjour.
Vous êtes à Auxerre, designer et fondatrice de l'association Au Bonheur des Chutes. De quelle chute s'agit-il Céline?
Alors il s'agit de beaucoup de types de chutes. Ça peut être des chutes de bois, de textile, de vitrage, de céramique. En fait, on va chercher et collecter des chutes auprès des professionnels du territoire qui, pour eux, n'a plus d'usage, mais qui, pour nous, retrouvent un nouvel usage.
Alors justement, qu'est-ce que vous en faites une fois que vous les avez récupérées?
Et bien, on fait beaucoup de choses avec. En fait, on a déjà un magasin de matières, donc c'est un lieu où les personnes peuvent venir récupérer ces matières à très bas prix pour faire leur bricolage, leurs arts créatifs, voilà, un petit peu tout ce qu'ils ont envie pour leur maison. Et puis, on propose aussi de réaliser des chantiers participatifs. Donc là, on accompagne plutôt des personnes qui ont envie d'apprendre à utiliser les outils et transformer ces matériaux en mobilier, en agencement pour chez eux ou pour des lieux collectifs.
Des chantiers participatifs puis, avec qui, par exemple ?
Avec, on fait avec des publics très très variés. On a par exemple déjà on est intervenu dans le lieu de détention à Jouy-la-Ville pour travailler avec des détenus. En fait, on a réalisé un salon pour la bibliothèque. Mmh. Où on peut faire ça aussi avec des jeunes de maisons de quartier ou des jeunes qui sont en réinsertion. L'intérêt, c'est à la fois de travailler sur le réemploi des matières, mais c'est aussi la question du travail manuel en fait qui est au cœur du sujet.
Et est-ce qu'il y a beaucoup de déchets, Céline ?
Oui, alors il y a vraiment beaucoup de déchets. Quand on a démarré, on se posait un peu la question de est-ce que réellement il y avait assez de déchets pour générer une activité qui crée suffisamment de valeur pour créer des emplois. Hein. C'est vrai que c'est la question aussi. Mmh. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, il y avait une très grande quantité de déchets et qu'aujourd'hui, en fait, il y avait besoin même d'un écosystème beaucoup plus large qui puisse aller collecter, trier et recréer, concevoir à partir de ces déchets. Voilà. Et c'est ça que nous... on fait aujourd'hui.
C'est ça finalement, oui, Céline, que vous avez envie de transmettre quelque part, c'est que même nous, particuliers, on aille un petit peu au-delà du simple tri, qu'on regarde, qu'on explore même nos poubelles, c'est un petit peu ça votre idée derrière.
Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de se dire au-delà de comment bien jeter, c'est de se dire mais qu'est-ce que je peux faire avant de jeter pour diminuer ma quantité de déchets, pour être sur d'autres types de consommation. Donc comment je vais réemployer, aller acheter d'occasion, comment je vais créer moi-même mes objets. Donc ça, c'est aussi tout un travail qu'on réalise dans ce cadre-là.
Et Céline, comment vous avez eu cette idée, Bonheur des Chutes ?
Alors, c'est venu au fur et à mesure du temps, mais c'est vrai que moi, je suis designer industriel et je me suis beaucoup posé la question en fait de ma place en tant que designer dans notre société actuelle. De comment je pouvais allier mes envies environnementales, mes convictions environnementales et sociales avec mon activité de designer. Et donc, c'est au cours du temps, en rencontrant différents types de projets, des ressourceries, des Fab Labs, des designers qui commençaient à faire aussi de l'open source produit, donc c'est-à-dire de laisser libre leur plan, etc., que je me suis dit, mais moi, je voudrais trouver cette place dans comment j'accompagne les citoyens dans ces changements de consommation, ces changements d'habitude. Et c'est comme ça qu'est né petit à petit le projet Au Bonheur des Chutes.
Céline, est-ce que vous avez de bons retours ? Est-ce que, par exemple, vous avez des gens qui vous appellent, qui vous contactent, qui disent, moi, je veux m'y mettre, y compris des entreprises, d'ailleurs, qui vous contactent pour vous donner leur chute, justement ?
Ah oui, bien sûr.
De plus en plus.
On a à la fois des entreprises qui sont intéressées par la démarche, qui ont envie de s'y intégrer, et de plus en plus. Et puis, en face de ça, on a aussi de plus en plus de personnes qui sont intéressées pour intégrer de l'agencement fait à partir de matières de réemploi, parce que c'est vrai que ça devient une vraie logique et une vraie envie de tout à chacun en fait, hein, de se dire plutôt partir de ce qui est sur notre territoire et de ce qu'on peut avoir à proximité pour créer plutôt que d'aller puiser dans des ressources à l'autre bout de la planète. C'est une vraie demande aujourd'hui.
Et je rappelle donc le nom de votre association, Céline, Au Bonheur des Chutes et non pas Au Bonheur des Dames, avec le site internet bonheurdeschutes.org. Merci beaucoup Céline, à bientôt.
À bientôt.
Et si vous aussi, vous êtes à l'origine d'une initiative comme Céline pour la planète dont vous voulez nous parler, ou même si vous avez besoin d'aide, tiens, pour monter un projet, eh bien, Chantal Le Montagnier attend toutes vos idées sur franceinter.fr, la page de la Terre au carré. Et restez avec nous puisque nous allons faire une petite séance de copinage avec les insectes, en tout cas, apprendre à les respecter et les voir, François, comme des individus à part entière, oui, même cette punaise.
Ici les petites râles fleurènes en Austin longent la Seine et nous font des signes. Là les capuches se dandinent en galerie marchande, rêvant de grosses limousines allemandes. Même si c'est le même soleil, c'est pas du tout, du tout pas
sur le périph, oh, allez, I shot the sheriff, Bob Marley, ici et là. Ici, gagne pour gagner, grimpe à normal sup. Là, l'escalator est en panne, on tourne dans la sup. Fantin, la tour et deux gars, allez, va au musée. La tour, y a deux gars, allez va t'amuser. Même si c'est le même soleil, c'est pas du tout pareil. Ici et là, ici et là. Tu sautes au périph.
Reconnu Alain Souchon, ici et là, et Thierry Dupin à la programmation musicale.
La Terre au carré. Camille Cronier.
Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Mais connaissez-vous les noms de mes nouveaux compagnons? Laissez-moi vous présenter mes pépettes préférées.
Vous avez pas osé, Camille, quand même.
Et si, et vous êtes bien sur France Inter, hein, avec les Inconnus, donc, qui chantaient. C'était il y a 30 ans, figurez-vous, leur amour des insectes dans une parodie. Et c'est exactement votre propos, François Lasserre, bonjour.
Bonjour.
Vous rigolez, vous levez les yeux au ciel, vous êtes entre les deux. Hein.
Bah, je l'entends souvent,
mais je
le répète aussi souvent.
Ouais. Il pouvait pas mieux, enfin en tout cas, vous pouviez pas faire mieux le rapprochement. Donc vous n'êtes pas humoriste, hein, je le dis tout de suite, vous êtes entomologiste, donc spécialiste des insectes, qui... comme nous, et comme le disaient les Inconnus, ont une âme, c'est ça?
Presque. Enfin, en tout cas, ils sont comme nous, quasiment. Ce sont d'autres êtres vivants. Alors, je les appelle des animaux non humains. Nous sommes des animaux humains, des animaux non humains. Tous les autres animaux sont des animaux non humains. Et ils sont strictement comme nous. Ils ont envie de vivre. Ils sont des individus. Ils ont des cultures. Une ruche ne se comporte pas de la même manière qu'une autre ruche. Un nid de guêpe ne se comporte pas de la même manière qu'un autre nid de guêpe, exactement comme nous. Un village ne se comporte pas tout à fait comme le village d'à côté. On est tous autant évolués les uns que les autres. En revanche, ils sont un peu plus différents que nous. C'est une culture un peu plus éloignée que nous. Et puis, on a malheureusement des aventures, des anecdotes qui nous arrivent dans notre vie à partir d'individus. Comme vous, je crois.
Je vais vous raconter.
Voilà, okay.
Et qui font qu'on en fait des généralités.
Et qui,
c'est ça.
Voilà. Et en fait, si on ne réfléchit pas, si on n'utilise pas notre cerveau un peu mieux, si on raisonne pas un peu mieux, bah finalement, de ces anecdotes, on en fait des généralités. Et c'est en partie pour ça, il me semble, que les insectes sont autant dénigrés et tués sans le moindre état d'âme encore aujourd'hui.
Alors, vous venez d'écrire ce petit livre que j'ai dans la main, Sauvons les insectes chez Rustica Édition. C'est un peu un guide, moi j'ai trouvé, presque de développement personnel, en tout cas pour se réconcilier avec les insectes et même les aimer. Donc vous dites que la notion d'espèce finalement dessert les insectes.
Oui, j'ai mis du temps à m'en défaire un peu de cette notion d'espèce. Si elle est très pratique pour les scientifiques, elle est un peu froide pour le grand public et un peu technique. Et finalement, on a encore tendance, surtout avec les animaux qui sont plus éloignés de nous, comme les insectes, à les mettre sous leur nom d'espèce. Mais voyez, vous, Camille et moi, on est des sapiens, mais on est avant tout Camille et François.
Ouais.
Et en fait, les insectes aussi. Et c'est pas François l'ésotérique qui vous parle, c'est François le scientifique, c'est la science qui nous a ramené à ça. C'est la science qui a suivi des individus au cœur d'une ruche ou d'une fourmilière. C'est la science qui a fait des photos photos des portraits de fourmis. Il n'y a pas une fourmi qui est identique à l'autre, il n'y a pas une fourmi qui se comporte comme les autres. Et du coup, le fait de les apprécier pour ce qu'ils sont, comme ils sont assez éloignés, bah, fait que c'est vrai que quand on apprécie les insectes, je trouve que ça rend beaucoup plus zen.
François Saltiel.
Oui, bah moi, c'est pas la science qui m'a ouvert les yeux, c'est mon fils de 3 ans. Donc, je raconte cette petite anecdote. Il y avait une mouche qui me tournait autour, j'essayais de la chasser, voire, allez, je le confesse, de vouloir la tuer. Et là, mon fils me dit, mais 3 ans, il me dit, mais pourquoi tu tues cette bébé mouche? Elle est partie chercher sa maman. Et à partir de maintenant, à chaque fois que je vois une mouche, je me dis que c'est peut-être potentiellement un bébé mouche qui part chercher sa maman, et donc j'en trouve plus une seule.
C'est ça la clé, François Lasserre, faut alors, imaginer, c'est ça qu'ils ont une personnalité, des émotions, des sentiments.
En fait, c'est ça qui est très compliqué. Ceux qui s'intéressent aux mammifères, ceux qui ont des animaux domestiques comme des vaches, des chiens, savent très bien que les animaux non humains sont des individus. Une vache ne se comporte pas de la même chose. Mais c'est exactement la même chose avec les insectes. Et là, cette mouche, on aurait voulu l'écraser comme ça, parce que des mouches, il y en a plein, mais elle, à votre avis, est-ce qu'elle est contente de savoir qu'il y en a plein ailleurs? Non, de la même façon que nous, moi, si on considère sapiens comme une espèce, d'ailleurs ce qu'on est, un peu invasive, on pourrait tout à fait se dire, bah tiens, là je vais détruire des sapiens, de toute manière, il y en a partout. Et c'est comme ça qu'on raisonne avec le vivant. Mais le vivant, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Chaque être vivant qui nous entoure est un individu.
Est unique, ouais.
Est unique, complètement unique. Alors, évidemment, l'insecte est éloigné de nous, on a l'habitude de les écraser pour un oui, pour un non, mais je demande simplement d'y réfléchir. Et comme vous l'avez fait, quand un insecte est là, est-ce que vraiment j'ai envie de le tuer, lui, Jojo ou Josette, peu importe, est-ce que vraiment j'ai besoin de le faire, est-ce que je peux pas un peu réfréner mes ardeurs? Et je prends souvent l'exemple des guêpes aussi, par exemple, pour vous parler des anecdotes. On se fait piquer un jour, pas toujours d'ailleurs, et en fait c'est très rare de se faire piquer par une guêpe, un jour par une guêpe. Mais c'était une Émilie, une Marthe, une Laure, peu importe, c'était un individu. Et à partir de cette anecdote, on a mis toutes les guêpes dans le même panier, c'est des insectes qui piquent. Et le jour où votre voisin vous dit je vais désinguer, hein, je vais appeler les pompiers ou des désingueurs d'insectes pour tuer les guêpes, ça vous fait ni chaud ni froid, alors qu'il y a 3 individus dans votre vie qui étaient peut-être un peu plus belliqueuses que d'autres d'ailleurs, qui vous ont, alors c'est pas du sexisme, hein, il y a que les filles qui nous piquent, hein, vous le savez peut-être, mais voilà pourquoi je donne des prénoms de filles.
Et vous dites la même chose sur les frelons par exemple, on va voir un nid de frelons, on n'a même pas forcément vu un frelon voler ou un frelon qui est venu nous embêter, nous attaquer. On le détruit automatiquement.
Exactement, sans penser une seule seconde, mais est-ce qu'ils m'ont vraiment embêté? Et même si un frelon était venu m'embêter, est-ce que ça vaut le coup que je tue ces milliers de frelons?
C'est le danger potentiel qu'ils représentent.
Cette propension à aller vers le risque zéro, c'est vrai qu'on l'a beaucoup avec les animaux non humains, y compris avec les bêtes qui piquent, mais les insectes qui nous piquent sont... ce sont des anecdotes. Ce ne sont pas tous les frelons qui nous embêtent, ce ne sont pas toutes les guêpes, c'est quelques individus au cours de notre vie. Et si on compte vraiment, c'est pas beaucoup. Et après, si on raisonne de façon très utilitariste, on peut se dire, en réfléchissant, mais les frelons sont des prédateurs, sont des pollinisateurs, servent à nourrir des oiseaux, etc. On peut aussi aller sur les rôles, si on n'a pas envie de les considérer comme des individus, mais en y réfléchissant un peu, finalement, avoir un nid de guêpe ou un nid de frelon dans son jardin, bah, c'est être écolo.
Alors, votre livre, il est organisé en 10 commandements. Vous mettez propositions, et moi j'ai l'impression que c'est des commandements. Rencontrez-les, tentez la zénitude, ne les stigmatisez pas, ça c'est le 3e commandement. Vous expliquez que les gens, d'ailleurs, dans ce chapitre, que les gens ont quelques espèces en particulier vraiment dans le nez, hein, qui leur font peur, qui les dégoûtent. Quelles espèces?
Mais en fait, si je vous demandais là, quelles sont les espèces qui vous embêtent, alors vous allez me dire le moustique, évidemment,
les araignées.
Araignées.
Alors c'est pas un insecte, l'araignée.
Alors c'est pas un insecte, mais que je l'accepte quand même. Vous allez me dire,
Merci François.
On me dit les puces. Je dis, ah bon, est-ce que vous avez été piqué déjà par une puce? Non, mais bon,
mais
vous voyez, c'est
irrationnel. Moi, par exemple, j'ai horreur des punaises. Elles m'ont jamais rien fait. Elles sont pas méchantes, mais je peux pas.
Tout à fait. Alors en plus, les punaises, qu'est-ce que ça veut
c'est
dire?
C'est quelque chose qu'on maîtrise pas. Comment on fait? Du coup, donnez-nous la clé
alors,
pour relativiser.
C'est juste, en fait, quand on pose la question, j'arrive à, quand on est un peu détendu de l'insecte, on va me citer 20 espèces. Et quand on est un peu stressé de l'insecte, on va me citer environ 40 espèces qui nous embêtent dans notre vie. Et encore, c'est pas tout, évidemment, c'est pas tous les individus. Et ensuite, je demande, et savez-vous combien il y a d'espèces qui vivent en France? Et là, tout le monde me regarde, personne n'en sait rien. Donc, on m'a cité, on va dire, une trentaine d'espèces sur 40 000 espèces qui vivent en France. Donc, déjà, c'est juste pour dire que les espèces qui nous embêtent sont infiniment minoritaires. Et ensuite, au sein de ces espèces, ce sont uniquement quelques individus. Si vous êtes fait piquer 10 fois par une guêpe dans votre vie, c'est 10 guêpes. C'est pas les centaines, voire les millions de guêpes qui vivent en France.
On rappelle, François Lasserre, que l'idée de ce livre, c'est aussi de mettre le doigt sur la disparition des insectes. Hein. Les dernières études parlent de 75-80% des insectes qui ont disparu
à certains endroits. On est plutôt sur 30-40% dans certains milieux ouverts et plutôt les pays très urbanisés.
Qu'est-ce que vous conseillez de faire si on veut du coup tenter le rapprochement, que ce soit en ville ou à la campagne, puisqu'il y a des insectes en ville, bien évidemment.
Justement, ces 10 actions, en fait, c'était voilà, j'ai pas voulu tomber dans les choses. Enfin, il y a quelques actions un peu classiques, comme laisser un peu du temps dans votre jardin, ne tondez pas tout, laisser les chenilles devenir des papillons, etc. Bon, des choses un peu classiques. Et puis j'ai cherché d'autres actions qui sont faciles à faire, se détendre un peu de l'insecte en y réfléchissant. Donc je donne des clés pour justement se détendre. Et le fait d'être détendu de l'insecte, bah du coup ça permet un jour, quand vous êtes à la campagne, de dire bah non, attends, on va peut-être pas les détruire. Parce qu'en fait, individuellement, on se dit je peux pas sauver les insectes, c'est compliqué là tout seul chez moi, qu'est-ce que je peux faire ? Et en fait, c'est des clés sur un rapport philosophique qu'on a avec le vivant et qui peuvent servir de façon extrêmement efficace, il me semble.
Alors François, j'imagine que vous aimez tout le monde, mais quel est quand même votre insecte chouchou ?
J'en ai aucun.
Non.
C'est terminé.
Oh, c'est pas possible.
Vous aimez tous. Qu'un chouchou, je vous aime tous. Ah. Comme vous deux, je vous aime autant.
Vous êtes comme vous êtes.
Comme vous êtes. Exactement. Je n'ai plus aucun insecte préféré. J'aime autant le frelon à pattes jaunes, le frelon asiatique, que l'abeille domestique, que la punaise verte, que n'importe lequel.
Bon, alors, sur cet amour magnifique, on va vous laisser, François Lasserre. Je rappelle donc, sauvons les insectes, les 10 actions pour agir et réagir. Petit guide très bien fait chez Rustica Édition. Et vous êtes entomologiste et vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement.
Qui, justement, fête ses 50 ans le 18 mars au Muséum de Paris. Venez au colloque des 50 ans de l'OPI. Demain des insectes, point d'interrogation. C'est ouvert, c'est gratuit.
Et les insectes seront tous présents d'ailleurs là-bas.
Ils seront tous présents, tous au rendez-vous.
Et à demain. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.
Au revoir.